troubles d'humeur, dépression majeure et troubles bipolaires, schizophrénie, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles de l'alimentation, jeux de hasard et jeux pathologiques, consommation polémique de substances. C'est là une palette de troubles dont souffrait, dit-on dans un article, une personne sur 8 dans le monde en 2019. Ça représente 970 millions de personnes. Et ces troubles sont désignés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme des maladies mentales. En 2020, le nombre des personnes atteintes de ces troubles a fortement augmenté à cause de la pandémie. Vous avez dû l'entendre. Et on estime que la hausse a atteint, par exemple, les troubles anxiogènes de 26%. Et les troubles dépressifs majeurs de 28%. Alors pourquoi je parle de ça ce matin? Lorsque nous lisons le chapitre 4 de Daniel, il est clair que la sanction par laquelle Dieu frappe le roi Nabucodonosor relève du trouble mental. Les biblistes s'accordent pour dire que le roi souffrait de schizophrénie, eu égard à toute la description qui est faite autour de sa pathologie. C'est un trouble qui se caractérise par une déformation notable de la perception et par des changements du comportement. Les symptômes sont des idées délirantes, récurrentes, des hallucinations, une pensée désorganisée, un comportement désorienté, une agitation extrême. Et on a envie de se demander qu'est-ce qu'une telle chose fait dans la parole de Dieu. Et figurez-vous qu'il n'est pas le seul à avoir souffert de troubles mentaux dans la parole de Dieu. Que dire de Saül lorsqu'il était troublé et qu'on faisait appel à Daniel pour jouer de la musique, pour l'apaiser? Que dire de la dépression du prophète Élie, qui a demandé à mourir lorsqu'il pensait être seul, rescapé de la tuerie de Jézabel? Que dire de Jésus, qui, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, était pris d'anxiété profonde en demandant au Père de lui épargner la coupe du jugement de nos péchés? Alors il faut bien parler de ces choses-là, parce qu'ils se trouvent dans la parole de Dieu. Mais le gros problème dans ce passage de Daniel, c'est qu'il nous est dit que c'est Dieu qui frappe Nebuchadnezzar de la pathologie dont il souffre. Et je vous invite à lire ce texte de Daniel, le chapitre 4. On va lire, normalement on est censé lire tout le truc, tout le passage, mais on va quand même réduire. À partir du verset 16. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne t'épouvantent pas. » Alors pour situer la chose, le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Cette fois-ci, contrairement à antérieurement, il se rappelle de son rêve et il raconte le rêve à Daniel. Même avant ses sages et ses astrologues, avant Daniel, personne ne pouvait lui donner une explication quant au rêve. Finalement, on appelle Daniel qui vient et qui se propose de donner une explication au roi. Daniel entend le rêve, il comprend le rêve et il s'apprête à donner une explication, mais il est troublé de ce que le rêve veut dire. Et le roi lui demande de ne pas être troublé. Vas-y, dis-moi ce que ça veut dire. Et je continue au verset 16. Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, parce qu'il s'agissait d'un arbre, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondantes qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veille descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et ses racines, dont les chaînes et les fers de bronze parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait avec les bêtes des champs l'herbe pour partage, pardon, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toi. Royaume humain, et qu'il a donné à qui il lui plaît. Jusque-là, notre lecture, pour le moment. Le monde aujourd'hui est très psychologisé, vous avez dû vous rendre compte, en particulier notre société française. Dès qu'il y a un événement majeur qui arrive, on met en place une cellule psychologique. Pas plus tard qu'hier, un gamin de 15 ans a menacé le proviseur de son école avec un couteau et on a mis en place une cellule psychologique. Comme si nous n'avions pas les armes pour lutter, pour nous défendre, comme si, par exemple, Dieu ne pouvait pas intervenir, en tout cas pour nous chrétiens, dans ce qui est perçu, par exemple, comme des troubles mentaux. Notez l'avertissement que Daniel fait au roi dans le verset 27, par exemple. Le roi prit la parole et dit, alors le verset 27, est-ce que je ne me trompe pas? Excusez-moi. Daniel, où es-tu, Daniel, là? Verset 24, pardon. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à ta faute par la compassion envers les malheureux, et la tranquillité se prolongera. Cet avertissement est directement adressé au péché du roi. Et Daniel est en train de dire au roi, voici ce qui va t'arriver parce que tu as péché contre Dieu. Et donc dans ce passage, Daniel fait le lien direct entre le péché du roi Nabucodonosor et le mal dont il est atteint, son trouble mental. Est-ce à dire que toutes les maladies, tous les troubles mentaux sont issus du péché? C'est pas ce que je dis. Cependant, la psychologie va nier, par exemple, que la maladie mentale peut résulter d'un état de péché. Et quel est le péché ici? Vous connaissez ce roi méchant qui se prend pour Dieu, au chapitre 3, on l'a vu. Son péché, c'est l'orgueil. Ensuite, la rébellion. Et puis, un manque de repentance. Et puis, pour finir, Nabucodonosor a une mauvaise image de Dieu en prenant sa patience pour de la faiblesse. Nous le voyons par exemple au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor, c'est 29, au bout de 12 mois quand même. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence ?» Remarquons que nous sommes un an après. Un an après l'avertissement de Daniel. Il est probable que Nebuchadnezzar ait eu peur dans les premiers moments parce qu'on lui annonce une sentence terrible. Il est probable aussi que pendant un certain temps, il ait voulu changer son comportement, son attitude pour ne pas subir le châtiment. Mais le temps passant, il ne voit rien arriver. Et ça ne rate pas. Son attitude refait surface et son orgueil revient. Et il dit, par la puissance de ma force, j'ai bâti mon royaume pour la gloire de ma magnificence, le royaume que j'ai bâti. Et Dieu lui rappelle alors. La parole était encore dans sa bouche, nous dit le verset 31, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ce royaume que tu aimes tant. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme bœuf, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. C'est Dieu qui gère, c'est pas toi. Il y a un lien direct ici entre la parole de Nabuchodonosor et la sentence qui a été prononcée. Le roi dit, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai construit. Regardez comment je suis grand. Et Dieu lui dit, penses-tu, je vais te faire manger de l'herbe. Je vais te faire ravaler ton orgueil. Qui crois-tu être? Et c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu humilie cet homme orgueilleux. Et parce que son orgueil est démesuré, son humiliation aussi est aussi retentissante. Il a été chassé du milieu des hommes. Il vivait comme une bête des champs, isolé, négligé. Il vivait dans les bois. Aujourd'hui, dans notre société, Nebuchadnezzar aurait subi une batterie de tests. On l'aurait passé au scanner, étudié son cerveau, essayé de comprendre ce qui se passe chez cet homme. Pourquoi il agit comme un bœuf. Un bœuf, pardon. Qu'est-ce qui arrive à cet homme? Et puis on l'aurait classé dans la catégorie schizophrène, avec des médicaments à prendre pour essayer d'équilibrer sa situation. Des médicaments qu'il aurait dû prendre à vie et qui auraient eu des effets secondaires. Et il aurait dû prendre d'autres médicaments pour pallier à ces effets secondaires. Et encore d'autres pour repallier aux médicaments secondaires. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les médicaments que nous prenons ont toujours des effets secondaires. Et il faut pallier à ces effets secondaires. L'unique traitement proposé pour traiter les maux jugés mentaux, ce sont des médicaments. Parce que le monde considère que nous sommes du matériel, strictement du matériel. Le monde nie clairement cet aspect de nous qui sommes spirituels également. Et on traite l'humain comme du matériel. Nous sommes matériels aux yeux des psychologues. L'homme n'est que matière, selon une certaine perspective. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des êtres spirituels également. Nous ne sommes pas que chair et sang. Non. Dans notre texte, Daniel est le seul à avoir posé le bon diagnostic du mal qui ronge Nebuchadnezzar. Parce qu'il a une vision du monde différente de ceux de son temps. Sa vision du monde prend en compte le Dieu créateur. Et lorsqu'on prend en compte le Dieu créateur, on voit les choses plus clairement, même si partiellement, mais plus clairement en tout cas. Et j'ai envie de nous demander, qu'en est-il de notre vision du monde? Est-ce que c'est la vision du monde de nos contemporains qui régissent ou qui régit notre vie? Ou alors est-ce que nous avons une vision du monde qui prend en compte le Créateur, comme le fait Daniel? Pourtant, pour le roi, il y a restauration. Le texte dit, après le temps marqué, verset 34, après le temps marqué, après le temps que Dieu a décidé, 7 ans après, ce qui correspond à 7 années, en langage biblique, en tout cas ici, dans le livre de Daniel. Très souvent, nous lisons la Bible et nous passons à côté de ces choses rapidement parce que d'un verset à l'autre, on ne s'aperçoit pas qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre les événements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année durant, le roi s'est comporté comme un animal dans les champs à manger de l'herbe. Imaginez l'embarras pour sa famille, pour son entourage. Mais l'espoir renaît. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. Vous imaginez? J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. C'est Nebuchadnezzar qui dit ça. Hein? Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, dit-il. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il peut le dire parce qu'il sait de quoi il parle. Personne ne peut dire à Dieu, mais que fais-tu? Parce que c'est lui le maître. Précédemment, le roi Nebuchadnezzar ne parlait pas ainsi. Il parlait en termes de moi, je, moi, moi, moi. Et là, 7 ans après avoir subi le châtiment de Dieu, parce que c'est à ça que sert le châtiment de Dieu, à la repentance, il parle en termes de Dieu, Dieu, Dieu. Il n'a que Dieu à la bouche. Lorsque je suis dans mon bon sens, je parle de Dieu. J'ai Dieu sur mes lèvres. Je sais que ma raison est revenue parce que je comprends la nature de Dieu, la personne de Dieu, les attributs de Dieu. Dans notre société, ce n'est pas ce que les gens cherchent. Les gens cherchent à se sentir bien. On veut se sentir bien. Être bien dans sa peau, comme on dit. Mais lorsque Dieu n'est pas dans l'équation, est-ce qu'on peut se sentir bien véritablement? Ou tout du moins, on peut masquer ces sentiments de mal-être. On peut masquer les symptômes Mais est-ce qu'on est bien pour autant? Est-ce qu'on peut être bien véritablement lorsque Dieu n'est pas dans l'équation? Je ne suis pas en train de dire que, puisque Dieu n'est pas là, forcément tout ce que nous vivons est l'objet de nos péchés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que lorsque nous avons Dieu dans nos vies, nous sommes dans notre bon sens. Et nous reconnaissons Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Il est clair que certaines dans le monde, les gens arrivent à se réjouir, à avoir des moments de contentement. Mais ce n'est que de courte durée. Rien à voir avec la satisfaction et le contentement que vit Nebuchadnezzar parce qu'il s'est tourné vers Dieu. Rien à voir avec la joie dont il est question en Galates 5, 22. Rien de tout ça. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues parce qu'il s'est tourné vers Dieu. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Vous voyez, il a encore davantage que ce qu'il avait parce qu'il s'est tourné vers Dieu. Maintenant, moi, verset 37, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu est celui qui abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Lorsqu'on est dans son bon sens, on ne reproche pas à Dieu ce qu'il a pu faire. On ne dit pas « Comment Dieu a-t-il pu me faire une telle chose pendant 7 ans ?» Il a quand même mangé de l'herbe pendant 7 ans. Il a vécu dans les bois pendant 7 ans, négligé. Mais il n'a pas reproché ça à Dieu, au contraire. Il a dit « Dieu est bon !» Parce qu'il a quand même eu de l'herbe à manger, il n'était pas obligé. Dieu n'est obligé à rien du tout. Dieu ne nous doit rien du tout. Il m'a donné de l'herbe pour nourriture, alors qu'il n'était pas obligé. Dieu est bon. Même dans nos malheurs, même dans nos souffrances, Dieu reste Dieu. Dieu reste un bon Dieu. Dieu restaure ses biens, il restaure sa fortune, et même plus encore. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Premièrement, que, comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas que matière. Et il ne faut pas nous laisser abuser par ceux qui le pensent ou qui le disent ou qui veulent nous le faire croire. Nous sommes à la fois être physique et être spirituel. Dieu est esprit, nous est-il dit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Deuxièmement, rappelons-nous que nous vivons dans un monde déchu, un monde de péché, un monde dans lequel nous aurons des mauvais jours. Alors, je ne sais pas si vous avez fréquenté ces chrétiens qui veulent vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'être triste, vous n'avez pas le droit d'être effondré après un drame. Dire à une mère qui vient de perdre son enfant, ne pleure pas, ça n'a aucun sens. C'est comme dire à Jésus devant la tombe de Lazare, Tais-toi. Alors qu'en Jean 11, 35, il nous est dit, et Jésus pleura. Il était triste. Son ami est mort. Et nous avons le droit d'être tristes, d'être abattus en face de circonstances difficiles dans la vie. Nous avons le droit de nous sentir mal. Sinon, on n'aurait qu'à enlever le livre, tout le livre des psaumes de la Bible. Rejeter le livre des Job. De Job. Et ne pas écouter Paul lorsqu'il dit « Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve à faire. » Et bien évidemment, tout n'est pas maladie mentale. Tout n'est pas trouble mental. Parce qu'encore une fois, une femme qui perd son enfant, c'est déjà pas normal. Une femme qui perd son enfant et qui déprime, c'est normal. Et dire qu'elle souffre de troubles, alors ne pas souffrir de troubles, ce serait ça, l'anomalie. Un homme qui va à la guerre, qui tue une centaine de personnes, qui voit ses amis mourir à ses côtés, et qui revient, et qu'on lui dise « Vous souffrez de stress post-traumatique, et que c'est un trouble, et que ce n'est pas normal, vous avez besoin de médicaments. » Ça, c'est un problème. Parce que ce qui ne serait pas normal, c'est que le bonhomme aille à la guerre, il tue une centaine de personnes, il revient à la vie civile, et tout va bien. Le livre de Job, par exemple, chapitre 14, verset 1, nous dit que l'homme né de l'infâme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Ses jours sont limités, pleins de troubles. Et pourtant, dans certains milieux, on veut nous faire croire qu'il faut que tout aille bien, tout le temps. Que le chrétien se doit d'être joyeux en toutes circonstances. Ça voudrait dire ne pas vivre dans le monde. Ça voudrait dire ne pas participer aux effets de ce monde déchu. Ça voudrait dire que nous, le chrétien, il ne tombe pas malade. Il ne meurt pas. Il ne perd pas ses proches. Ça veut dire que nous sommes déjà au paradis. Troisièmement, nos péchés ont des conséquences physiques et émotionnelles, n'est-ce pas? Proverbe 26, 13 dit ceci. Le paresseux dit, ça c'était un verset préféré de mon papa, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Juste pour qu'il n'aille pas dehors, pour qu'il n'aille pas travailler. La paresse, c'est un péché. Et ici, le péché de la paresse fait naître l'anxiété que la société va décrire comme étant un trouble. Mais mon gars, lève-toi, va bosser. Proverbe 28, 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Personne ne le poursuit, mais il court. Pour aller où, je ne sais pas. Et ça s'appelle de la paranoïa, directement liée à la méchanceté. C'est le méchant qui prend la fuite, alors que personne ne le poursuit. Psaume 31, 10. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépéris. Conséquence directe du péché sur mon physique. Jacques 5,13. Quelqu'un parmi vous, vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, du coup. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes ou vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un texte que nous avons vu tout récemment, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Quatrièmement, vous le savez sans doute, et pour ceux qui ne le savent pas, le mal existe dans le monde. Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mal existe dans ce monde. Et il n'y a pas de traitement médicamenteux pour ça. 2 Corinthiens 10, 3, 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et ça aussi, c'est un problème. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nos péchés peuvent avoir des conséquences directes sur et notre physique et notre esprit. Cinquièmement, on parle de maladie. Lorsqu'il y a trouble, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est un psychologue, psychiatre même, qui disait que un trouble mental, c'est pas une maladie. Et voici ce qu'il dit. De mon point de vue, il n'y a aucune maladie mentale et par voie de conséquence, aucune thérapie, aucune psychothérapie. La thérapie qui serait adéquate est un genre particulier de relation humaine qui aiderait les personnes à faire face à leurs problèmes. Il est donc nécessaire de recadrer certaines questions que nous nous posons. Je ne sais pas si vous avez fait l'observation, mais depuis quelques années, effectivement, comme je l'ai rappelé au début, on ne cesse de nous proposer des psychologues en toutes circonstances. Tu as un souci, va voir le psy. Va consulter quelqu'un. Tandis qu'avant, moi, lorsque j'ai grandi, vous savez ce qui servait le psy? La famille. On discutait entre nous. Quelque chose de grave était arrivé. C'est la famille qui absorbait tout cela. Les différentes générations vivaient ensemble. La mamie était là, le papy était là, la famille. Aujourd'hui, la famille est éclatée. Évidemment, on a besoin de psy pour parler. Sixièmement, les médicaments ne guérissent aucun trouble mental. Ça, c'est vrai. Mon épouse me faisait une remarque en regardant une publicité. Dans toutes les publicités où on propose des aides ou des médicaments, on parle de soigner. On ne parle jamais de guérison. Parce que le médicament ne guérisse pas. Tout au plus, ça soigne. Les médecins vous diront que c'est le corps qui se guérit lui-même. Parfois avec l'aide des médicaments, bien sûr. Parce que la guérison, vous savez à qui elle appartient? À Dieu seul. Si Dieu veut nous accorder une guérison, il le fait. Les médicaments ne guérissent personne. Mon propos ici, c'est de dire que les médicaments, ou pas les médicaments, mais la plupart des troubles mentaux sont le résultat de dysfonctionnements spirituels ou de désordres physiques. Savez-vous que le manque de sommeil, par exemple, la déshydratation, la malnutrition, le manque d'exercice physique, une tragédie, un deuil, un péché sexuel, toutes ces choses-là peuvent conduire à la dépression. Si vous prenez des médicaments pour traiter un problème d'ordre sexuel, c'est peine perdue. Finalement, face à toutes ces troubles, mon conseil serait de consulter le médecin par excellence. D'abord, de nous tourner vers le Seigneur, comme l'a fait le roi Nabucodonosor. Alors, ça peut prendre du temps, j'en conviens. À Nabucodonosor, ça lui a pris 7 ans. Ça peut prendre du temps. Mais pour les problèmes spécifiques, il faut voir les médecins spécifiques. Si vous avez un problème de poumon, vous n'irez pas voir le podologue. Si votre vie est remplie de péchés, n'allez pas voir un cardiologue. Même si on dit que le corps de l'homme est mauvais, on comprend bien que c'est une image. Tournez-vous vers Dieu, demandez-lui pardon, tout simplement. Parce que ce que je sais, c'est que le Dieu que je sers a donné son Fils unique pour mourir pour nos péchés. C'est lui le médecin du péché. Ce Fils, Jésus-Christ, qui est ressuscité 3 jours après sa mort, eh bien, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous en ce moment. Ce Jésus est capable de nous secourir de nos faiblesses, de nos détresses, de nos troubles, en particulier lorsqu'ils sont directement liés à nos conditions de pécheurs. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle. Cela redonne espoir, espoir de ne pas rester enfermé, enchaîné dans nos péchés. L'espoir d'une solution pérenne, pas juste être soigné, mais être guéri de nos péchés, comme le disait Jérémie, le prophète. L'espoir d'une délivrance totale. Alors, chers frères et sœurs, soyons libérés, délivrés de tout mal, de tout péché. Que le nom du Seigneur soit glorifié.